pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Le Real Madrid, champion d'Europe pour la 15e fois. Un texte d'Émeric Epo, paru le 2 juin 2024 sur le site Les As de l'info. Le Real Madrid vient de remporter la 15e Ligue des champions de son histoire. C'est tout simplement incroyable. Samedi 1er juin, le club espagnol a battu le Borussia Dortmund BVB 2-0 au cours d'un match complètement fou. Revenons ensemble sur cette finale. Le résumé du match en 4 points. Vinicius Junior, l'homme des finales. Pour sa 2e finale de Ligue des champions avec le Real Madrid, l'attaquant brésilien a une nouvelle fois offert la victoire à son équipe à la 83e minute en marquant le 2e but du match. Dortmund, malchanceux. Dortmund a dominé une grande partie du match et touché le poteau à plusieurs reprises sans pouvoir mettre le ballon au fond du but. Bellingham, l'homme du match. Jude Bellingham jouait la première finale de Ligue des champions de sa carrière. Samedi, il a été élu homme du match. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé la passe décisive sur le but de Vinicius Junior. Pour sa première saison au Real Madrid, il a marqué 23 buts et fait 12 passes décisives. Courtois confirme qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. En août dernier, Thibaut Courtois s'était gravement blessé au genou. Le gardien belge n'a pas disputé un seul match cette saison, mais lors de la finale, il était dans les buts pour le Real Madrid. Il a connu un énorme match en faisant plusieurs arrêts décisifs. Cela a empêché Dortmund de prendre l'avantage. Deux légendes jouaient leur dernier match en club. Toni Kroos est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il aura clairement marqué l'histoire de ce sport. À 34 ans, le joueur allemand vient de remporter le 30e trophée de sa carrière. Arrivé au Real Madrid en 2014, Toni Kroos a remporté tous les trophées imaginables. Avant la finale, il avait annoncé qu'il allait prendre sa retraite après l'Euro cette année. Il jouait donc son dernier match avec le Real Madrid aujourd'hui et il quitte le club de la plus belle des manières en remportant sa 6e Ligue des champions avec le club espagnol. Après 12 saisons et plus de 400 matchs sous les couleurs du BVB, Marco Reus va lui aussi quitter son club. Contrairement à son compatriote allemand Toni Kroos, Marco Reus n'a pas gagné autant de trophées dans sa carrière, mais c'est aussi une légende de ce sport. Ce que les gens aiment de ce joueur, c'est sa fidélité et sa dévotion pour le BVB. De nombreux joueurs du Borussia Dortmund ont quitté l'équipe à un moment dans leur carrière pour aller dans des plus grands clubs et gagner plus de trophées. C'est le cas de Lewandowski, d'Haaland et de Mario Götze. Marco Reus, lui, est resté au BVB malgré les nombreuses propositions de la part d'autres clubs. C'est pour cette raison que c'est un joueur extrêmement respecté. Il aura fait presque toute sa carrière dans ce club. Malheureusement, il n'a pas réussi à remporter le plus grand des trophées avec son club de cœur. On a eu droit à une grande finale, avec des buts et des rebondissements. J'aurais bien aimé que Dortmund gagne pour Marco Reus et sa carrière, mais aussi parce que je suis un fan de Liverpool et que le BVB et Liverpool sont deux clubs qui se ressemblent beaucoup. Mais le Real Madrid mérite amplement cette victoire. Le club espagnol confirme une nouvelle fois qu'il est l'un des plus grands clubs de l'histoire du soccer. Et toi, as-tu regardé la finale samedi? Pour ou contre avoir des animaux à l'école? Un texte d'Émeric Epo, paru le 27 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Notre pour ou contre de cette semaine est un peu spécial. C'est parce que c'est un as qui nous l'a suggéré. Volgé nous a écrit pour nous proposer de faire un débat sur la présence d'animaux en classe. Une excellente idée. Volgé avait même pensé à préparer différents arguments. On s'est donc inspiré de son très bon texte pour en discuter avec toi. À ton avis, les écoles devraient-elles autoriser les animaux dans les classes? Allons voir les différents arguments. Les arguments pour. Devenir responsable. Avoir des animaux, c'est cool, mais il faut s'en occuper. Il faut les nourrir, les laver, parfois les promener, bref, c'est du boulot. Volgé propose que certains élèves se portent volontaires pour s'occuper des animaux à l'école. C'est une très bonne idée, parce que ces élèves apprendront à être responsables. Ils seront sûrement très fiers d'eux. Un ami de plus. Connais-tu la zoothérapie? C'est une forme de thérapie qui utilise les animaux pour soigner. Selon plusieurs études, leur présence procure beaucoup de bonheur et de réconfort chez les humains. Ça peut même réduire le stress. Alors, pourquoi ne pas faire de la zoothérapie à l'école? Ça pourrait aider les élèves qui éprouvent de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère. Imagine pouvoir serrer un gros chien dans tes bras quand tu te sens un peu raplapla. Ah, moi, je dis oui. Une classe plus soudée. Devoir s'occuper d'un animal en groupe, en prendre soin, ça renforce les liens. Les élèves qui ont un animal dans leur local risquent d'être plus motivés à aller à l'école et à ressentir un sentiment d'appartenance plus fort par rapport à leur classe. Que ce soit un chien, un cochon d'Inde ou un poisson rouge, qu'importe. L'animal deviendra la mascotte de la classe. Des arguments contre. Les mauvaises odeurs. On les aime beaucoup, nos amis les animaux, mais il arrive qu'ils ne sentent pas très bon. Ce n'est pas de leur faute, mais ces odeurs sont parfois très fortes. Dans une classe avec la chaleur, ces odeurs peuvent vite devenir désagréables, et surtout si les responsables ne font pas leur tâche. Le manque d'espace. On entend souvent qu'il manque de place dans les écoles pour les élèves. Mais pour accueillir des animaux, il faudrait aménager des espaces spécialement pour eux. Ça demande du temps, peut-être des rénovations, et beaucoup d'écoles n'ont pas la place ni l'argent nécessaire pour le faire. Une source de distraction supplémentaire. Est-ce que ça t'arrive d'avoir de la difficulté à te concentrer en classe? Imagine si tu côtoyais en plus une perruche qui fait des vocalises, un chat qui se frotte sur tes jambes ou un hamster qui se met à sprinter dans sa roue. Ça peut vite devenir la folie en classe. Les enseignements du prof deviendraient soudainement moins intéressants. Non? Et toi, que penses-tu de ces arguments? Aimerais-tu avoir des animaux dans ton école? Justice pour la pie bavarde. Un texte de Clémence Tessier, paru le 29 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Depuis plusieurs années, un agriculteur et urbaniste albertain du nom de Dustin Bager mène un combat bien particulier auprès de la ville d'Edmonton en Alberta. Sa demande: faire de la pie bavarde l'oiseau officiel de la ville. On t'explique tout ici. Tu vas voir, ses raisons sont un peu rigolotes. Un oiseau mal aimé. La pie bavarde est très présente à Edmonton. Même si c'est un oiseau assez mignon, beaucoup trouvent sa présence plutôt désagréable. Pourquoi? Parce que son cri strident, qu'on peut entendre à toute heure du jour ou de la nuit, dérange la population. Présentement, la ville d'Edmonton n'a pas d'oiseau officiel. Depuis plus de 10 ans, Dustin Bager essaie donc de donner ce titre à la pie bavarde. Même si elle n'est pas très populaire, elle mérite sa place parmi les emblèmes de la ville, selon l'urbaniste. C'est quoi un emblème? C'est un symbole qui représente une ville, un pays ou une organisation. Souvent, l'emblème apparaît aussi sur le drapeau du pays ou de la ville. C'est un peu comme un logo, mais il a souvent une signification historique. Des arguments convaincants. Voici pourquoi Dustin Bager pense que ce drôle d'oiseau devrait être l'emblème de la ville d'Edmonton. La pie bavarde est originaire d'Edmonton. Elle a élu domicile dans la région il y a 3 ou 4 millions d'années. La pie est travaillante. Elle peut prendre jusqu'à 40 jours pour construire son nid. Selon Dustin Bager, ça représente bien Edmonton. Prendre une éternité pour terminer un projet de construction. La pie bavarde ne se décourage jamais. Au début du 20e siècle, beaucoup de pies ont été exterminées parce que leur présence était dérangeante. Malgré tout, elle est restée bien présente dans la région. La pie bavarde est intelligente. Elle est capable de jouer des tours et d'enseigner des choses aux autres pies. Edmonton est la ville qui abrite la plus grande population de pies bavardes en Amérique du Nord. Selon lui, la pie bavarde est sous-estimée, comme la ville d'Edmonton. En 2014, Dustin Bager a participé à un concours qui visait à inventer un nouveau drapeau pour la ville d'Edmonton. Même s'il n'a pas gagné, il continue son combat. Peut-être qu'un jour, grâce à ses efforts, la pie bavarde deviendra l'oiseau officiel de la ville. Si tu devais trouver un nouvel emblème canadien, lequel choisirais-tu? Les réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans? Un texte de Camille Lopez, paru le 3 juin 2024 sur le site Les As de l'Info. Dernièrement, le premier ministre du Québec a comparé les écrans et les réseaux sociaux à de la drogue. Selon lui, on peut y devenir accro. Il aimerait donc que le gouvernement étudie l'impact de TikTok, Instagram et compagnie sur les jeunes. Une des questions qu'il se pose, faut-il les interdire aux moins de 16 ans? On te résume la situation. Tu le sais probablement déjà, il faut avoir au moins 13 ans pour se créer un compte sur la majorité des médias sociaux. Mais le gouvernement québécois aimerait aller plus loin. Le 25 mai dernier, le premier ministre François Legault a manifesté son inquiétude. Moi, ça me fait peur. Ça crée des problèmes de santé mentale importants chez les jeunes, a-t-il dit. Il veut donc demander à tous les partis politiques québécois et à des experts d'évaluer si ces plateformes sont dangereuses pour toi. Il pourrait aussi réfléchir à la possibilité d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Tu sais quoi? Cette idée vient des jeunes. Oui, oui. C'est la section jeunesse du parti de François Legault qui lui a fait cette demande. Jeunes plus réseaux sociaux égale amour fou. Avec l'aide d'une compagnie appelée Léger, les As de l'Info ont mené un sondage auprès des 8 à 12 ans. On a appris qu'un enfant de 8 ans sur 4 a au moins un compte sur un réseau social. Chez les 12 ans et plus, c'est 8 jeunes sur 10. OK, mais qu'est-ce que les experts disent? Est-ce que ces plateformes sont vraiment dangereuses pour ta santé? La réponse courte? Oui. Mais, selon une étude québécoise, plus un ado utilise les réseaux sociaux, moins sa santé mentale va bien. On parle entre autres d'anxiété, de dépression et de troubles alimentaires. Une autre étude menée en Angleterre indique que ces plateformes ont un effet négatif encore plus grand chez les filles. Mais d'autres experts parlent aussi d'effets positifs. Par exemple, ces plateformes nous permettent de nous exprimer et de communiquer avec nos proches. Et ailleurs dans le monde, l'idée d'imposer un âge minimal pour utiliser TikTok ou Instagram n'est pas nouvelle. En France, il faut avoir au moins 15 ans pour ouvrir un compte sur un réseau social. En Floride, il est interdit au moins de 14 ans d'utiliser ces plateformes. Et toi, penses-tu que c'est une bonne idée d'empêcher les moins de 16 ans d'avoir un compte sur les réseaux sociaux? Bientôt de l'agriculture sur la Lune, un texte d'Émeric Epo, paru le 27 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Dans les prochaines années, des humains marcheront à nouveau sur la Lune. Le nom de cette mission spatiale? Artemis. La mission prévoit aussi la construction d'une grande base pour loger ces explorateurs lunaires pendant un certain temps, mais il faudra bien les nourrir, ces humains. Voilà pourquoi l'Agence spatiale canadienne, ASC, travaille sur des technologies qui permettront de cultiver des fruits, des légumes et même des céréales directement sur la Lune. Que mangent les astronautes? La Station spatiale internationale, c'est un laboratoire dans l'espace. Son équipage, des astronautes venant de plusieurs pays, mange de la nourriture lyophilisée. Quoi? Ça veut dire qu'on a retiré toute l'eau de ces aliments pour qu'ils prennent moins de place et qu'ils soient moins lourds. Une fois dans l'espace, les astronautes les réhydratent grâce à une machine. Pas trop appétissant, non? Autre problème, envoyer de la nourriture dans l'espace coûte très cher. Et même sec, les aliments ne sont pas éternels, ils ne se conservent que pendant 18 mois. Pour approvisionner toute une base sur la Lune, il faut donc trouver une solution plus efficace et moins coûteuse. Des légumes sur la Lune. On peut déjà faire pousser des plantes dans l'espace, comme la laitue, mais ces techniques produisent peu d'aliments, pas assez pour nourrir toute une base lunaire. À l'Agence spatiale canadienne, une équipe veut relever le défi de l'alimentation sur la Lune. Ces scientifiques collaborent avec des communautés inuites du nord du Canada pour déterminer la meilleure manière de cultiver des légumes dans des environnements difficiles. Vois-tu, les températures dans le Grand Nord sont extrêmement froides, atteignant souvent les moins 45 degrés Celsius. Ces conditions sont similaires à celles sur la surface de la Lune. Une solution qui semble prometteuse et de faire pousser les aliments directement dans l'eau. On appelle ça de la culture hydroponique. Il faudra évidemment attendre plusieurs années avant que des humains puissent manger des crudités provenant de la Lune, mais la vraie question est, une carotte lunaire, est-ce que c'est aussi bon qu'une carotte de la Terre? Et toi, si tu devais choisir un fruit et un légume à cultiver sur la Lune, lesquels choisirais-tu? Et si les enfants se lançaient en affaires? Un texte de Lysiane Alexandre, paru le 4 juin 2024 sur le site Les As de l'Info. Samedi 1er juin, plus de 10 000 jeunes de 5 à 17 ans ont participé à la grande journée des petits entrepreneurs en vendant leur création aux quatre coins du Québec. Les jeunes du marché de Saint-Jérôme m'ont tellement impressionné que j'ai décidé de t'en présenter quelques-uns. Mais d'abord, sais-tu ce qu'est un entrepreneur? Être entrepreneur, c'est créer une entreprise qui offre des services comme un salon de coiffure ou des produits comme des chaussures. Lors de la journée des petits entrepreneurs, les enfants et les adolescents peuvent vendre des produits très variés dans près de 200 marchés à travers le Québec. plantes, savons, cartes de souhait, accessoires, décorations, zéro déchet, signets, aimants, limonades, soupes, biscuits. Il y en avait pour tous les goûts. Sur les traces de papa. J'ai d'abord rencontré Théodore Charbonneau, 13 ans. Il utilise l'équipement de soudure de son père pour fabriquer des objets en métal comme des porte-clés et des aimants. L'année dernière, il a utilisé les profits de son kiosque pour acheter une imprimante 3D. Cette année, Théodore vendait aussi divers articles de plastique fabriqués à l'aide de cet appareil. Voilà un véritable homme d'affaires. Je me demande déjà ce qu'il fera avec ses profits cette fois-ci. Destination Japon. Louis-Laurent Dubé, 11 ans, adore dessiner lorsqu'il voyage. Il s'inspire donc de ses deux passions pour dessiner des monuments ou icônes célèbres comme le Rocher Percé et la Tour Eiffel. Il a ainsi illustré des signets, des cartes postales et des cartes géographiques. Il a même pensé à toi en créant un livre. Crée ta propre bande dessinée pour les enfants qui s'ennuient lors des longs voyages en voiture. Louis-Laurent compte donner une partie de l'argent amassé au refuge pour chiens Pogs Québec. C'est d'ailleurs là qu'il a adopté son pitou. Il compte économiser le reste de ses profits pour aller au Japon avec sa famille. Des saveurs d'ailleurs. La Médina. C'est une affaire de famille. Lina Boumessouer, 19 ans, et son frère Adam, 11 ans, ont concocté des pâtisseries tunisiennes avec l'aide de leur sœur Ambre, 16 ans, et de leur mère. L'imam a décrit ses sucreries. On travaille beaucoup avec les dattes, la semoule, les amandes et la fleur d'oranger. C'est la fleur d'oranger qui donne le goût à nos pâtisseries. Ça prend du temps et de la patience à faire. Vu que c'est notre troisième année aux petits entrepreneurs, on a étudié ce qui marchait et ce qui marchait moins. On sait que les assortiments de gâteaux plaisent beaucoup aux gens parce qu'ils aiment goûter à plusieurs choses en même temps. La première année, on vendait des gâteaux à l'unité, mais ça ne marchait pas très bien. Cette famille expérimentée compte bien revenir l'an prochain. Un cadeau inspirant. Pour Rose Crampon, 12 ans, tout a commencé avec un cadeau reçu à Noël. Un kit de résine. C'est à ce moment qu'elle a commencé à créer des objets en résine avec sa meilleure amie, Soléane Charbonneau. Signets, colliers, instruments de géométrie. Leur créativité est sans limite. Les filles ont dû faire plusieurs essais avant de bien maîtriser leur art. Elles adorent voir leurs clients satisfaits et comptent revenir au marché l'an prochain. Pour ma part, j'ai été tellement charmé par les petits entrepreneurs que j'ai fait 3 achats. Un chouchou pour attacher mes cheveux, une boucle pour les cheveux et un porte-carte à jouer. Et toi, aimerais-tu participer à une grande journée des petits entrepreneurs? Si oui, dis-nous ce que tu vendrais dans ton kiosque. On te présente un chirurgien robot. Un texte de Lysiane Alexandre, paru le 2 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Au centre hospitalier universitaire Dr. Georges L. Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick, un robot nommé Da Vinci occupe un poste important. Il aide les chirurgiens à opérer des patients et il est très, très bon dans son travail. Quoi? Un robot chirurgien? Oui, oui, tu as bien lu. Da Vinci, c'est un robot qui aide les chirurgiens. Eux, ce sont les médecins qui opèrent les patients dans leur travail très minutieux. Il est muni de 4 bras qui sont contrôlés par le docteur. ce sont ses bras qui exécutent l'opération. Les chirurgiens le guident à l'aide d'une manette et de pédales et peuvent voir l'opération grâce à un écran 3D. Pourquoi utiliser un robot? Les avantages sont nombreux. D'abord, Da Vinci permet aux chirurgiens d'être plus confortables pendant les opérations qui peuvent durer plusieurs heures. Ainsi, ils se fatiguent moins vite et évitent de se blesser. Lorsque les chirurgiens effectuent eux-mêmes une opération, leurs mains peuvent trembler. Un robot, ça ne tremble pas. Alors avec son aide, le médecin peut effectuer des mouvements plus précis. En un peu plus d'un an, Da Vinci a participé à l'opération de 365 patients. D'habitude, après une opération classique, on s'attend à un petit nombre de complications comme des saignements, mais chez ces 365 personnes, aucune complication n'est apparue. C'est un record canadien. La chirurgienne Robin Como utilise le robot depuis le mois de mars 2023. Selon ses observations, les interventions de Da Vinci laissent de plus petites cicatrices que celles d'un chirurgien humain qui n'a pas bénéficié de son aide. Les patients ont donc moins mal et récupèrent plus rapidement. Bientôt surchargé, Da Vinci est tellement populaire qu'il est presque tout le temps occupé. La responsable du programme, Jocelyne Hébert, pense même lui embaucher un nouveau collègue, donc un deuxième robot. En ce moment, ce robot assiste seulement lors de deux types de chirurgie, mais il pourrait bientôt aider encore plus de chirurgiens. Et toi, connais-tu d'autres types de robots?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.